Chapitre 8. Saint-Sulpice et le colombier. Ils se levèrent. Au lieu de repartir vers la Seine rejoindre la pilotine, Bergton entraîna Paloma en sens inverse, vers le vallon du Vivier.
« On va chercher de l'or ?»
ironisa Paloma. Bergton s'arrêta à la première propriété qui bordait la petite rivière, un vaste gîte où des chevaux couraient sous les pommiers. Bergton se retourna vers Paloma avec un grand sourire.
« Une jolie femme débrouillarde comme vous doit forcément savoir monter à cheval. »
À peine quelques minutes plus tard, ils galopaient sur de superbes alezans, côte à côte dans la forêt de Tancarville, sur un sentier remontant vers le plateau.
Lorsque le parc naturel régional a transformé le vallon du Vivier en réserve naturelle volontaire, expliqua le professeur, ils ont fait appel à moi comme expert. J'ai dormi souvent à cette occasion chez le propriétaire de ce gîte qui nous prête les chevaux, Lars Nuypen, un Hollandais tombé amoureux de la région.
Le professeur éclata de rire en prononçant ce nom. Paloma ne comprit pourquoi. Roland Bergton continua.
On a fait ensemble plus d'une balade équestre dans l'estuaire. Un chic type, ce Lars, un hyperactif, un peu poète. Je suis sûr qu'il vous plairait.
De quoi vous mêlez-vous ? Réagit Paloma.
Je vous assure, continua Bergton en plaisantant. Tout à fait votre genre. C'est une pitié, ce type seul. Il n'a que ses chevaux dans la vie. Et vous montez sacrément bien, jeune femme.
Des années de ballet dans les arènes de Carthagène, répliqua Paloma.
Ils atteignirent le plateau et parvinrent à la route nationale Le Havre-Rouen. Des voitures défilaient à pleine vitesse, en flux continu. Bergton désigna un village quelques centaines de mètres plus loin.
Le village de Mélamar, c'est également le nom de famille des héros d'une des plus astucieuses aventures d'Arsène Lupin, inventée par Maurice Leblanc, la demeure mystérieuse.
Et il est situé en plein sur la bisectrice Gœur, Gruchet, Levallas, Honfleur. Il n'y a pas de hasard.
Elle regarda avec inquiétude les voitures sur la nationale.
Professeur, on ne va tout de même pas s'engager sur cette route avec les chevaux.
On ne va pas loin, rassurez-vous. À peine plus de 10 kilomètres. On s'arrête à Saint-Romain de Colbosque.
Et que va-t-on chercher à Saint-Romain?
Surprise!
Il dirigea sa monture d'une main et de l'autre sortit son téléphone portable. Il parla tout en galopant. Peu après, ils arrivaient en vue de Saint-Romain de Colbosque.
C'est bon, tout est réglé,
fit Bergton en rangeant son téléphone dans sa poche. Ils traversèrent Saint-Romain. Paloma lut le panneau. Elle comprit. Ce professeur était véritablement fou. Cette obsession de ne jamais prendre deux fois de suite le même mode de transport. Ils entrèrent sans cesser de galoper dans l'enceinte du petit aérodrome de Saint-Romain. Un type en bleu de travail sortit des bureaux et se précipita vers Bergton. Le professeur descendit de cheval, Paloma en fit autant.
« Ce sont les chevaux de Nuypen, » fit Bergton à l'homme en bleu de travail.
« Pas de problème, Roland, on les ramènera. Ma petite Camille fait du poney chez lui. »«
je sais, tu l'embrasseras de ma part. L'avion est prêt ?»«
Oui, tu nous as pas laissé beaucoup de temps, mais c'est bon. »«
Bonjour, »
fit Paloma, coupant la conversation.
« Bonjour, mademoiselle, »
fit l'homme ôtant sa casquette d'une main noire de cambouis.
« Une de mes étudiantes. » précisa Bergton. «
Moi, je suis René Paulins, l'homme à tout faire de l'aérodrome. Enfin, surtout le mécano. »
Le sourire complice entre Roland Bergton et René Paulins énerva Paloma.
« Un crack !»
précisa Bergton.
« Tu parles ?»
répliqua René.
« Vous allez prendre l'avion avec Roland, mademoiselle. Vous avez de la chance. C'est l'un des plus anciens membres de l'aéroclub de Normandie. Le crack, c'est lui !»
Paloma ne voulut pas avouer qu'elle avait pris pour la première fois l'avion il y a 6 mois, dans le confortable Airbus Paris-Séville. Elle s'installa un peu anxieuse dans le minuscule cockpit, à côté du professeur Bergton. Il lui confia la carte. Il fit un petit signe de la main à René, qui s'écarta de la piste. L'avion prit rapidement de la vitesse et décolla. Pendant quelques instants, le cœur de Paloma chavira, et elle ne vit plus que le ciel. Lorsqu'elle osa enfin baisser les yeux, elle resta muette devant le spectacle. Au premier plan, majestueux, le pont de Normandie enjambait l'estuaire. Au loin, dans la brume du soir, elle distinguait les lumières du Havre, et surtout plus loin encore, dans les couleurs somptueuses du soleil couchant, les silhouettes fantomatiques des paquebots rangés le long du chenal dans l'attente de l'accès au port. À peine remise de ses émotions, le minuscule avion vira de nouveau, si brusquement que Paloma dut s'accrocher à la jambe du professeur. Il semblait serein, heureux, sûr de lui, comme lorsqu'il conduisait la pilotine sur la Seine. Un enfant, un grand enfant, pensa Paloma admirative. Elle le trouva brusquement beau, avec les lunettes de soleil qu'il avait chaussées pour piloter.
« L'estuaire de la Seine !» cria Bergton. « Le pays de Caux, toute ma vie est là, c'est-à-dire toute l'histoire contemporaine. »«
C'est de vous ou de Lupin ?»«
Lupin, bien entendu, dans la barre y va. On fonce plein nord-est, une trentaine de kilomètres. Il n'y en a que pour quelques minutes. »
Il regarda l'heure sur un cadran du cockpit. 21h20.
« Tout va bien, on est dans les temps. »
Roberto Martinez gara sa vieille Renault 5 grise le long du trottoir. Il regarda le ciel. L'horizon s'était brusquement obscurci. Les nuages s'accumulaient. « Ils seront bientôt là, » pensa-t-il. Ils étaient prodigieux de rapidité. Par un moyen ou un autre, ils trouveront le moyen de venir. Ici. Il repensa à la folie. Était-ce une erreur ? Était-ce un indice trop évident ? De toutes les façons, il était trop tard pour regretter. Désormais, il fallait les retarder. Au moins les retarder. Cela ne devrait pas être trop difficile. Il suffisait d'être là, de rester là. Là où ils passeront forcément. Ici. Il jeta un dernier coup d'œil méfiant vers le ciel. De plus, un verre de Calvados ne pourrait pas lui faire de mal. Il entra dans le bar. Paloma regarda la carte. Un brusque doute monta en elle. Elle observa plus attentivement. Son doute se confirmait. Il n'y avait aucun aéodrome autour d'Héricourt-en-Caux. Bergton lut dans ses pensées.
« Pas de panique, Paloma. Vous avez entendu René, je suis un crack. Où va-t-on se poser ?»
insista Paloma.
« Je viens juste de trouver la solution, c'est simple. Ça va vous plaire, vous qui êtes amatrice d'anagrammes et de ce genre de jeu de mots. On a décollé de Colbosc. On va donc atterrir ?»
Paloma regardait la carte sans comprendre.
« Allez, c'est simple, une simple contrepétrie. Colbosc, à l'envers, ça donne... Vous ne trouvez pas sur la carte ? Ça donne Boscol. Cocasse, non ?»
Paloma regarda une nouvelle fois la carte. Elle lut clairement, à peine 1 kilomètre d'Héricourt-en-Caux, château de Boscol. Bergton insista.
« Un des 12 châteaux du trésor aux Anglais. Curieuse coïncidence, non ?»
Paloma, méfiante, se contenta de demander « Il y a une piste d'atterrissage dans ce château ?»«
La plus sûre, la plus longue de toute la Normandie et surtout de loin la plus somptueuse. »
Paloma avait compris depuis ce matin que lorsque Bergton parlait ainsi par sous-entendu, il était inutile de chercher à en savoir davantage.
« Lisez-moi quelques lieux autour d'Héricourt, » demanda le professeur. « Peut-être que j'aurai une illumination. »
Paloma lut.
« Héricourt-en-Caux, La Durdent, Boscol, Otto-Saint-Sulpice.
Comment ?»
cria Bergton. L'avion fit un écart qui rendit Paloma livide.
« Otto-Saint-Sulpice !»
répéta Paloma tout en s'accrochant à son siège.
« Par pitié, professeur, restez concentré. »«
Mon Dieu !»
murmura cette fois Bergton.
« Saint-Sulpice. Alors ainsi, c'est eux qui avaient raison. »«
Qui ça, eux ?»
s'inquiéta Paloma. « Qui avait raison ? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ?»«
Saint-Sulpice !» répéta Bergton. « Saint-Sulpice. Pourtant, je ne voulais pas y croire. » Suis-je si stupide de vouloir toujours refuser les évidences ? Saint-Sulpice, le centre du triangle parfait. Quelle évidence ! Quelle sinistre évidence !
Allez-vous vous expliquer à la fin ?
On arrive, répondit Bergton.
Mais où est la piste ?
Devant nous, répondit calmement Bergton.
Devant eux, Paloma distinguait seulement des champs et une longue allée rectiligne de hêtres devant le château.
« On ne va pas atterrir là !»
hurla Paloma. Bergton semblait très calme.
De quoi vous plaignez-vous? C'est la plus belle allée de hêtres de toute la Normandie, une allée de près de 800 mètres, rectiligne, plate, goudronnée récemment, je vous l'assure. Aucun danger.
Et les hêtres?
Ils sont sur le côté, pas au milieu de la piste.
Paloma ferma les yeux.
Quelle pitié, jeune femme, de fermer ainsi les yeux. Je vous offre la plus belle piste d'atterrissage du monde, face à un château Renaissance, bordé de hêtres centenaires, une véritable cathédrale de verdure.
Elle ferma tout de même les yeux et ne les ouvrit que lorsqu'elle sentit que l'avion roulait sur le goudron.
« Vous êtes fou !»
explosa-t-elle en essayant de lui pincer la jambe.
« Et c'est une propriété privée. Ceci dit, je suis sûr que c'est encore un copain à vous. »
« Gagné. C'est le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bolbec, spécialisé dans la pétrochimie. J'essaie de le convertir au développement durable en jouant au golf avec lui. Pas facile. »
Descendue de l'avion, Paloma sentit ses jambes faiblir lorsqu'elle toucha le sol de l'allée du château. Le trop-plein d'émotions. Bergton la soutint.
« Doucement, ma colombe, restez là, tranquillement. Notre pollueur n'est pas dans son château. Il est en Arabie pour 10 jours. »
Paloma, fatiguée, croisa le regard du professeur. Elle y décela une nouvelle lueur espiègle.
« Mais je sais où il range ses vélos !»
lança Bergton. Paloma regarda le professeur, infatigable, partir en courant chercher les vélos. Elle se sentit soudain lasse. Peut-être le soir qui tombait. Elle s'appuya à l'avion. Elle leva les yeux. Il n'avait pas menti. Le site était magnifique. Les branches des hêtres se rejoignant dans le ciel formaient comme une immense voûte verte et lumineuse, longue de près d'un kilomètre. Il fallait qu'elle tienne le coup. Elle savait que le professeur était un incroyable érudit, un homme plein d'énergie et de ressources. Mais elle seule possédait l'esprit de déduction suffisant pour résoudre le code Lupin. Et elle savait que pour l'instant, elle n'avait fait qu'effleurer l'essentiel. Que signifiait ce centre du triangle parfait? Quel rapport avec le cryptogramme de l'aiguille? Avec les 12 châteaux du trésor aux Anglais? Le professeur revint avec 2 superbes vélos noirs hollandais.
« Direction Auto Saint-Sulpice, »
dit-il, résigné.
« Vous allez m'expliquer ?»«
Là-bas. »
Moins de 2 kilomètres plus tard, Bergton ralentit l'allure à un carrefour entre 2 routes de campagne. Il laissa sur sa droite une direction Auto Saint-Sulpice.
« On n'y va pas ?»
demanda Paloma.
« Pas la peine, ce qui nous intéresse se trouve en dehors du village. »
Quelques centaines de mètres plus loin, il s'arrêtait devant une monumentale statue, étrangement située sur cette petite route de campagne, en plein milieu des champs. La statue de bronze du saint, elle-même géante, était érigée sur une double stèle de briques rouges de plus de 5 mètres de haut, ce qui la rendait plus gigantesque encore. Elle dominait avec autorité la platitude du paysage champêtre alentour.
« Je fais les présentations, » dit solennellement Bergton. « Saint-Sulpice, Paloma. Paloma, Saint-Sulpice. »
« Brrr, il me fiche la trouille, ce saint géant érigé au milieu de nulle part, la tête dans les nuages. »«
Vous ne croyez pas si bien dire. Vous n'avez pas lu Da Vinci Code ?»«
Non, désolé. » »«
Si vous l'aviez lu, vous sauriez que Saint-Sulpice est désormais une célébrité planétaire. L'église Saint-Sulpice de Paris est visitée par les chercheurs de trésors du monde entier. » Ils viennent y observer le gnomon, ce cadran solaire primitif, et le fil de laiton rouge qui marque la fameuse rose ligne qui coupe en 2 l'église Saint-Sulpice, qui coupe en 2 Paris, qui coupe en 2 la France, et même le monde entier. La ligne imaginaire primitive, le méridien originel, le point zéro, présent sur toutes les cartes anciennes avant Greenwich, le méridien de Paris, la fameuse Roseline, appelée également Roseline, la Sainte Martyre fêtée le même jour que Saint-Sulpice. Le méridien de Greenwich passe par Étretat, mais la Roseline passe par Carcassonne.
Je commence à comprendre. Encore un double lieu. Le pays de Caux était effectivement à l'heure ?
Elle regarda avec angoisse la silhouette géante de l'étrange statue de Saint-Sulpice.
Je vous passe les détails, mais vous aurez compris que Saint-Sulpice est une référence majeure de la géographie ésotérique. Observez la statue, Paloma. Regardez l'étole du saint.
Paloma leva les yeux.
Mon Dieu, les croix des Templiers.
Oui, les croix des Templiers, appelées aussi croix de l'ordre de Malte, dont la sainte patronne est sainte Roseline.
Allons, tout ceci ne prouve rien.
Si. Faites le tour de la statue, Paloma. Attentivement.
Inquiète, intriguée, elle fit lentement le tour de la stèle, scrutant le moindre détail dans les briques rougies, tout en observant du coin de l'œil, au-dessus d'elle, Saint-Sulpice. Comme si le géant de bronze attendait qu'elle détourne le regard pour abattre sur elle sa crosse. Elle ne voyait rien sur la stèle. Elle se sentait un peu rassurée. Soudain, en bas de la stèle, entre les briques rouges, elle aperçut une plaque de marbre blanche gravée. Elle s'accroupit et lut. En l'an de grâce 1876, la statue a été bénie par son éminence le cardinal de Bonnechose. Elle se releva, livide, et regarda Bergton.
Le cardinal de Bonnechose ? Ce personnage de l'aiguille creuse qui fut évêque de Carcassonne, vous saviez ?
Je savais.